Alors en fait, c'est très ancien parce que dès la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, les grands textes symboliques protestants sont traduits en grec et présentés au patriarche de Constantinople. Souvent, ça s'est fait par le biais des chapelains, des ambassadeurs qui étaient auprès du sultan à Constantinople. Depuis le XVIe siècle, il y a eu ces dialogues-là qui, en fait, n'ont pas vraiment abouti à cause de la distance, etc. Il y a eu de nouveau des contacts au XXe siècle. En fait, jusqu'au XXe siècle, les églises orthodoxes considéraient la réforme un peu comme une question interne à l'église d'Occident. Et de ce fait, leur premier partenaire, c'était, et ça reste d'une certaine manière, encore l'église catholique romaine. Mais avec le mouvement œcuménique moderne, des dialogues internationaux se sont mis en place, et relativement tardivement, entre orthodoxes et protestants.
Alors, vous avez parlé d'aboutissement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un but vraiment précis au dialogue interreligieux ?
Les premiers buts, finalement, vu que les contacts avaient été rompus pendant plusieurs siècles, c'était simplement d'apprendre à se connaître, d'identifier les points de convergence et de divergence, et puis d'essayer de régler quelques questions pratiques qui pouvaient se poser. Par exemple, la première déclaration commune d'un texte élaboré entre un protestant et orthodoxe, elle date de 1985, elle traite de la révélation, et c'est un texte qui a été élaboré au sein du dialogue entre luthériens et orthodoxes.
Est-ce qu'il y a eu des avancées sur des points précis ?
Souvent, les dialogues ont trait à des questions au sujet de l'Église, puis avec la grande question de l'Eucharistie et de pouvoir communier ensemble. Alors c'est vrai qu'entre protestants et orthodoxes, on n'en est pas encore là. Mais par exemple, dans le dialogue entre réformés et orthodoxes, il y a eu une reprise de toutes les questions théologiques et plus précisément christologiques qui se sont posées au 1er siècle. Très concrètement, il y a eu un accord entre réformés et orthodoxes sur la manière de confesser le symbole de Nicée-Constantinople, où les réformés ont accepté de le confesser dans la formule originale, sans le filioque. Par exemple, pour des questions plus concrètes, il y a eu des dialogues, par exemple, aussi avec les franges évangéliques des églises protestantes. Là, la question très concrète, c'était la question de l'évangélisation, avec le problème de certaines missions protestantes qui vont dans des pays de tradition orthodoxe et qui implantent des églises protestantes dans ces pays-là.
Qu'est-ce que vous pensez que le dialogue interreligieux est voué à reconstituer une église universelle ou bien est-ce qu'on ne pourra jamais passer au-dessus des différences ?
Alors bon, je pense qu'il y a eu pendant un temps cet espoir ou cette volonté que par le dialogue on arriverait à une seule église. Ensuite, bon, de manière générale, je pense que le mouvement œcuménique est en train de prendre conscience qu'il faut apprendre à vivre ensemble avec des différences. L'enjeu, c'est de comprendre que ces différences ne sont pas forcément séparatrices. On peut vivre une communion sans forcément être tous les mêmes.